invité, une playlist, un mercredi soir sur deux, 20h-21h, Tour de Piste est sur Principe Actif.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le 19 avril de cette année sortira le nouvel album de Parlor Snakes baptisé Cut Shadows. Publié 5 ans après Disaster Serenade, cet album marque de nouveau un changement de cap pour le tandem franco-new-yorkais qui s'éloigne du son abrasif et brut des débuts au profit de mélodies éthérées. Plus froid que ses prédécesseurs, Cut Shadows s'épanouit sur 8 titres aux différentes frontières de la cold wave, du psychédélisme noir, du shoegaze et même du krautrock. À cette occasion, j'ai le plaisir de recevoir Eugénie Alcazar, chanteuse du groupe depuis ses débuts. Bonsoir Eugénie, merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonsoir.
Alors il s'est écoulé pas moins de 5 ans entre ce nouvel album et son prédécesseur. Qu'est-ce qui explique que ce temps de gestation et de fabrication de l'album ait été aussi long ?
Alors quand on a sorti Disaster Serenades en octobre 2019, c'était peu avant le Covid tout simplement. Donc on avait une tournée... une chouette tournée à faire pour défendre cet album sur scène. Et puis, au final, on a fait, je crois, 5 dates sur la tournée qui était prévue. Et puis ensuite, il y a eu les divers confinements. Donc ça, déjà, ça a bloqué pas mal de choses. Et du coup, on est parti en tournée pour défendre Disaster Serenades un an après. Donc au final, ça explique déjà une année un peu de retard, j'ai envie de dire. Et mais c'est aussi à ce moment-là qu'on a commencé à composer les morceaux de Cut Shadows. Donc on était un petit peu sur les deux fronts, sans forcément se dire qu'on allait faire un album. Mais c'était une manière de continuer à rester créatif, de continuer à échanger et de pas rester sans rien faire, en fait. Et donc... Et puis c'est aussi qu'un album qui a pris peut-être un peu plus de temps à se réaliser parce qu'on a décidé aussi de le produire et de l'enregistrer nous-mêmes, puisqu'avant on était en contrat d'artiste dans une maison de disques et qu'on a fait le choix de l'indépendance. Et donc, comme on a tout enregistré nous-mêmes, forcément, eh bien, il y avait des choses qu'il fallait qu'on apprenne à faire et qu'on réalise nous-mêmes. Donc je pense que c'est toutes ces petites choses-là ont fait que, plus la tournée, ça fait que 5 ans après, Cut Shadows va sortir.
Quelle direction vous vouliez lui donner à ce nouvel album ?
On ne savait pas trop, en fait, et je pense que c'est assez... je pense que c'était le cas peut-être un peu sur les albums précédents aussi. Peut-être un peu moins sur celui qu'on a enregistré à New York, mais on n'avait pas forcément de direction ou d'idées préconçues en tête. On a juste composé et au fur et à mesure des sessions qu'on faisait avec Peter, on est arrivé vers ces textures-là, ces sons et ces compositions différentes. Effectivement, do it yourself, et je pense que c'est lié aussi au process de création de cet album, en fait, puisqu'on l'a vraiment composé tous les deux dans notre studio, beaucoup la nuit, et qu'on l'a composé vraiment autour des synthés, guitares, voix, dans un premier temps, avec une boîte à rythme qui nous permettait d'avoir un soutien rythmique. Et puis au fur et à mesure, on s'est dit, ah bah tiens, c'est intéressant, c'est ces sonorités là aussi un peu robotiques, un peu plus peut-être froides, et je pense que c'est au fur et à mesure que ça s'est constitué de cette manière là
alors quels avantages et quels inconvénients représente le fait de travailler à deux comme vous l'avez fait pour Cut Shadows?
Je dirais que ça ne représente que des avantages, ça ne présente que des avantages, puisque on prend les décisions à deux, donc il y a beaucoup moins d'intermédiaires, il y a finalement que on doit se convaincre, Peter et moi, mutuellement de la pertinence de telle ou telle partie, chanson, texte, son, et il n'y a pas... voilà, il y a pas d'autres personnes en fait que nous deux qui décidons. Donc ça, je pense que c'est vraiment un gros avantage, parce qu'on perd moins de temps et puis surtout on reste dans notre univers, dans notre rêve en fait, tous les deux quoi. Donc je dirais qu'il n'y a pas d'inconvénient en fait.
Mieux. Et comment vous êtes réparti le travail avec Peter?
Alors Peter, on a écrit tous les deux tous les morceaux. Peter, lui, il avait vraiment cette responsabilité assez nouvelle qui était de gérer la partie technique des enregistrements, pour ce qui est des enregistrements des instruments, des guitares, des basses, de tout. Donc c'était un nouveau métier à apprendre en fait, puisque jusqu'ici on avait travaillé avec des ingé-sons extérieurs. Donc on allait en studio avec nos morceaux et puis y avait un ingé son qui branchait tout et qui gérait les prises. Et là, on a dû faire ça nous-mêmes et c'est Peter qui s'est vraiment qui a mis les mains dedans et qui a adoré ça d'ailleurs. Pour ce qui est de l'enregistrement et puis moi j'avais aussi j'ai enregistré pas mal de démos vocales à la maison aussi, donc c'est pareil, c'est apprendre à gérer tout ça, sa voix, ses enregistrements, les exports, enfin tout quoi. Ça peut paraître finalement assez anodin et pas grand chose, mais quand on l'a pas vraiment expérimenté avant, c'est assez nouveau. Pour la répartition des tâches, en tout cas, c'est un peu comme ça que ça s'est passé, mais on a vraiment enregistré tout ça tous les deux au studio. Pour la composition, c'est à deux. Pour les textes, ça a vraiment été un échange à deux. Assez équilibré, quoi.
Et alors, vous étiez dans quel état d'esprit pendant l'enregistrement de ce disque ?
On était dans un état d'esprit plutôt... On était très excités en fait parce que voilà, c'était beaucoup de découvertes, beaucoup de nouveautés. On est passé par plein de phases, les débuts qui étaient quand même un petit peu dans toute cette période un peu strange, la sortie de la pandémie, repartir en tournée. Donc là, on était dans un état d'esprit un peu à la fois excité de pouvoir enfin jouer les morceaux de Disaster Serenades, mais aussi ceux qu'on avait commencé à composer pour Cat Shadows. Et puis, parfois, des moments down un petit peu aussi, parce que c'est, je pense, l'état d'esprit général des gens en ce moment. Mais globalement, très, très enthousiaste et très excité par ce nouveau challenge, cette nouvelle direction artistique, et puis cet échange entre nous deux, quoi, sur le par rapport à la création de cet album, en fait, et puis la possibilité de se dire bon, on va pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire, quoi.
Est-ce qu'on peut dire que ce disque-là, il est aussi né de l'urgence et de sortir de la crise Covid, de sortir du négatif, de sortir de cette période assez inédite?
C'est sûr que c'est une période dont on n'a vraiment plus envie de parler. On n'a pas envie de se replonger là-dedans. Urgence, j'en sais rien, parce qu'on a quand même pris notre temps et qu'on a quand même pu jouer et repartir en tournée un an après. La sortie du Covid, donc il n'y avait pas vraiment d'urgence. Par contre, il y avait une grande envie d'avoir du nouveau, quoi, du nouveau son et de se dégager du passé en fait. Et ce qui est un peu le sens du titre de cet album aussi, quoi, se dégager des ombres du passé et avancer. À notre rythme, ceci dit, vraiment à notre rythme. Donc, urgence, je sais pas trop. Je pense qu'on a pris notre temps, mais on s'est quand même posé des deadlines qu'on a respectées.
Alors, je propose, ma chère Eugénie, qu'on ouvre la programmation musicale avec un titre, justement, de ce dernier album Cut Shadows de Parlor Stakes. Il s'appelle Voices, c'est le premier qui a été composé pour l'album. Il est très shoegaze, j'ai trouvé très, très shoegaze. Est-ce que, avant de lancer le titre, tu veux nous dire quelques mots sur ce morceau?
Voici, c'est un des premiers titres qu'on a écrit pour cet album et qu'on a un peu joué aussi effectivement en live et qui, et qui, je pense, fait vraiment la transition entre l'album d'avant et puis celui-ci.
Voices du groupe Parlor Snakes, de leur album à venir dans quelques jours, Cut Shadows. Alors très rapidement, comme ça Eugénie, un petit inventaire de vos goûts musicaux respectifs, ceux qui ont influencé cette synthèse inédite qu'est Cut Shadows.
On écoute beaucoup de musique assez différente, même si ça reste quand même souvent dans un registre rock. Mais c'est vrai que il y a des choses qu'on écoute de manière régulière et qui nous accompagnent toujours. C'est My Bloody Valentine, les Stooges, même si ce disque n'est pas influencé par les Stooges directement. Je pense qu'on a aussi grandi dans les années 90, donc il y a toutes ces sonorités-là dont je pense que Cut Shadows est assez empreint. Moi, je suis une grande fan de David Bowie. Il y a Joy Division aussi, c'est un peu tout ça, quoi, un peu toutes ces mouvances-là. Après, on écoute aussi des groupes plus obscurs, entre guillemets, moins connus et qu'on aime découvrir comme ça. Et ça peut aussi nous faire du bien, nous inspirer pour des sons, pour des structures, voilà. Mais on essaye toujours de faire quelque chose d'assez moderne, sans tomber dans le revival shoegaze 90s, quoi.
Alors, je
Ouais.
sais que si tu ne gardais qu'un disque, ce serait Funhouse des Stooges, dont tu parlais tout à l'heure. Ça me fait très plaisir, parce que c'est mon groupe préféré. Les
Ah, je
années
savais pas.
années 70 sont très présentes dans tes goûts musicaux. Hein, tu citais David Bowie, Funhouse est sorti en 1970. Vous avez écrit un titre en hommage à Mark Bolan de T-Rex. On est toujours dans les années 70. Est-ce que toi qui as grandi dans les années 90, c'est une décennie qui te touche particulièrement, les années 70?
Funhouse, c'est l'album qui, c'est pas forcément mon album préféré, mais c'est notre album préféré à tous les
À tous les
deux,
deux.
à Peter et moi. C'est-à-dire que si on nous pose la question, quel est votre album favori à tous les deux, c'est vrai que c'est souvent celui-là qui sort parce qu'il est plein de rage, de colère, de fougue, de guitare bien fuzzy, bien méchante. Et ça serait donc cet album-là qui nous correspondrait bien à tous les deux, même si effectivement Cut Shadow, je pense, n'est pas forcément dans cette mouvance-là. Effectivement, la musique des années 70, elle me parle beaucoup parce que c'était grande période de nouveautés où finalement plein de choses n'avaient pas encore déjà été faites, et c'est à ce moment-là qu'elles ont pu exploser. Et aujourd'hui, tout a déjà un peu été fait, quoi. Donc, et beaucoup de choses ont été faites dans les années 70. Donc, oui, bien sûr, parce que ce que j'aime chez lui, je pense que c'est pas seulement sa musique, c'est son personnage, en fait. C'est toutes les identités qu'il s'est créées. Et une chose qu'on aime aussi beaucoup, c'est sa faculté à proposer quelque chose de différent à chaque album. Et ça, c'est un truc je pense qu'on
Ça,
fait.
oui, c'est un point quand même que vous avez beau, oui, de remettre les compteurs
Oui.
à zéro à chaque sortie d'album.
Ouais. Ouais, on n'a pas forcément envie que tous les albums soient une déclinaison du premier, en fait, quoi. Sinon, ce serait très ennuyeux. Et ce qu'on aime, c'est finalement faire des choses différentes. Et les années 80 aussi, c'était musicalement très différent, mais c'est aussi, il y a eu plein de choses, plein de trucs vraiment horribles, mais il y a eu aussi plein de trucs vraiment géniaux. Plein de trucs vraiment géniaux, quoi. Ça nous a aussi beaucoup nourri cette période-là, je pense. Ce retour au synthé, notamment à quelque chose de plus froid, peut-être plus mélancolique. Enfin, moi, c'est quelque chose en tout cas qui me parle beaucoup. Souvent, mes chansons préférées sont des chansons mélancoliques et un peu froides. J'aime beaucoup le mineur, en fait. Je suis pas très majeure comme personne.
Et là, on parlait des Stooges, d'Iggy Pop. Alors, Iggy Pop incarne toujours l'instinct et puis cette espèce de sauvagerie qui est dans le rock'n'roll. Votre nouveau disque long format est très éthéré, avec des titres qui, pour la plupart, s'étirent sur 4 ou 5 minutes. Quelle place vous avez laissé à l'instinct dans sa réalisation?
Au départ, vraiment 90% d'instinct, j'ai envie de dire. Souvent, les premières prises sont les meilleures. Enfin, les premiers jets sont les meilleurs. Quand on est en studio avec Peter, on lance des choses et puis on improvise autour, on jamme autour, et on enregistre tout. Et souvent, on revient aux premières moutures, en fait, parce que instinctivement, si on s'est dit, ah ben tiens, là, c'est là qu'il va y avoir le changement, sans se le dire, mais qu'on le fait, c'est bien l'instinct qui parle, en fait. Mais on va toujours quand même, malgré tout, chercher à sortir de ça pour voir si c'était, si ça serait pas mieux finalement de tenter un break ici ou de faire autre chose à ce moment-là. Mais souvent, on a constaté qu'on revenait quand même à ce qu'instinctivement on avait ressenti et joué. Donc, je pense que c'est important, l'instinct, parce que c'est le cœur aussi, c'est les tripes. Après, il faut du cérébral aussi, parce que, notamment, je pense, pour la partie lyrics, qui est assez importante en ce qui nous concerne, les textes sont quand même bien réfléchis. Ça peut nous arriver vraiment de nous prendre la tête sur un mot pendant 2 semaines, en fait, ou sur une phrase, jusqu'à ce qu'elle nous paraisse, jusqu'à ce qu'elle soit parfaite à nos yeux, qu'elle raconte ce qu'on a ressenti, en fait.
Alors, vous avez fait cet album dans un esprit très do it yourself, on le disait tout à l'heure, tous les deux, et à la maison. On pourra d'ailleurs parler du lieu d'enregistrement et puis du temps, temps que ça vous a pris. Néanmoins, est-ce qu'il y a eu d'autres collaborations d'autres collaborateurs ou collaboratrices pour ce disque? Est-ce que tu pourrais nous les citer et nous parler des fonctions qu'ils ont eues sur la sortie de cet album?
Oui, bien sûr. Ben, on a 2 batteurs qui jouent sur ce disque. On a Greg Damson, qui est notre batteur en live, donc qui a joué sur plusieurs titres de l'album. Et puis notre ami Frédéric Jean, qui a également joué sur 3 morceaux de l'album, qui lui... joue avec plein d'autres artistes différents. Donc ce sont les deux guests sur cet album, puisque on joue pas de batterie pour le coup. Peter est multi-instrumentiste, mais la batterie c'est plus complexe quand même à enregistrer et à bien jouer. Et puis après on a fait appel au studio UFO, à Alexandre Mazarguil, pour mixer l'album et le masteriser. Donc, on avait déjà travaillé avec lui plusieurs fois. C'est notre ami. Voilà pour la partie, partenaire, quoi, pour cet album.
Et je propose qu'on poursuive la programmation avec un deuxième extrait de votre album. Ça s'appelle Birth Don't Sing. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot sur ce titre?
Je dirais que c'est un morceau au lyrisme assez noir et qui, pour le coup, celui-ci raconte une histoire assez narrative, contrairement aux autres morceaux qui sont beaucoup plus libres d'interprétation au niveau des textes et du sens.
To have
deuxième extrait de dernier album, du prochain album même du groupe Parlor Snakes. Le disque s'appelle Cut Shadows. Le titre que vous venez d'écouter s'appelle Birds Don't Sing. Alors on peut citer Bukowski et Bulgakov parmi tes auteurs de littérature préférés. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans ta bibliothèque puisqu'on parle de lyrisme?
On trouve beaucoup de romans russes, Nabokov, Tolstoï, et puis j'aime beaucoup l'autrice américaine Joyce Carol Oates. Donc je crois que j'ai à peu près tout lu. Enfin, elle est tellement prolifique que finalement non, je n'ai pas tout lu. Mais j'essaie de suivre, de tenir le rythme. J'adore sa façon de parler des filles et des femmes, de les mettre au premier plan. Enfin, c'est vraiment sa thématique principale, les filles. Franchement, on trouve un peu de tout, peut-être un peu moins de romans français, mais j'essaye quand même de me tenir à la page. Et puis j'adore la littérature fantastique et d'horreur aussi. J'adore Stephen King, enfin voilà, quelques classiques quoi, quand même.
Et là, avec Peter, vous avez des goûts musicaux en commun. Est-ce que c'est le cas aussi pour la littérature? Est-ce que Peter t'a fait découvrir des auteurs américains, par exemple? C'est pas à New York, c'est pas ce qui manque. Et inversement, est-ce que au niveau des...
Ouais, bah, je pense qu'on est tous les deux, on adore Bukowski. Je crois que je connaissais déjà Bukowski avant de connaître Peter, mais... je crois que le roman favori de Peter, c'est Le Maître et Marguerite. Donc c'est pas un américain, mais oui, on adore. Je pense que là où on se rejoint aussi pas mal, c'est les biographies. Voilà, je crois qu'on lit beaucoup de biographies de musiciens, de voilà, et ça c'est un truc qu'on aime bien tous les deux, quoi, parce que c'est pas seulement la vie des musiciens, mais aussi c'est toute un contexte, des époques différentes, des faits de société différents. Donc c'est un peu se replonger aussi dans des périodes qu'on n'a pas connues et apprendre autour de la vie de, je sais pas, de James Brown par exemple. Je sais qu'il l'a lu et moi aussi, pas tout ce que c'était que la société de cette époque-là, quoi.
Et alors, la crise sanitaire dont on parlait tout à l'heure a impacté durablement la manière de travailler pour de nombreux artistes. Est-ce que ça a été le cas pour vous?
Elle nous a forcé à acquérir plus d'indépendance et d'autonomie tous les deux. Donc ça, c'est quelque chose qui va rester et ça, c'est une bonne chose d'ailleurs, puisqu'on voilà, maintenant on est capable d'être autonomes tous les deux pour ce qui est d'enregistrer. Après, je pense que on a besoin, en ce qui nous concerne, on a besoin d'être ensemble en fait et d'être au studio deux fois par semaine minimum ensemble pour écrire, pour composer, mais même parfois pour tchatcher en fait, quoi, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps à parler et on a besoin d'être ensemble, de sortir ensemble aussi, d'aller voir des concerts, de passer du temps ensemble pour être inspiré, quoi.
Et alors, la ville, c'est l'endroit où les choses se passent et tout dans une ville inspire la poésie. Est-ce que les ambiances de Paris, la ville dans laquelle vous vivez et dans laquelle vous avez enregistré l'album, ont une influence sur ce disque?
Je pense, alors, c'est Paris, mais c'est surtout la figure de la cité, de la grande ville voilà, urbaine. Je pense qu'une ville comme New York, où Peter a vécu, est certainement... inspirante d'une autre manière aussi, mais c'est toute cette bien sûr c'est toute cette effervescence qu'il y a dans une ville, tout ce bruit, toute cette promiscuité, tout ça c'est très inspirant. On a quand même la chance et la possibilité de faire beaucoup de choses à Paris notamment. Donc oui, c'est une grande source d'inspiration. Après, c'est aussi une source d'angoisse et une source de fatigue, de fatigue nerveuse et visuelle, quoi, parce que on aimerait voir loin et on peut pas trop à Paris. Il y a toujours quelque chose qui bloque la perspective en fait. Et parfois c'est bien aussi de s'en aller, de la quitter la ville pour voir autre chose justement et notamment pour voir loin, quoi. Donc c'est inspirant et on est voilà, on adore Paris, on adore New York, on adore la ville. Mais c'est vrai que des fois, ça fait du bien de s'en défaire, quoi. Et pour mieux la retrouver.
Et ben, je propose qu'on poursuive cette programmation avec un autre extrait de votre album. Ça s'appelle City Burns et ça évoque votre rapport à la ville, les Parlor Snakes, City Burns. We'll be right back. City Burns du groupe Parlor Snakes, extrait de Cut Shadows, leur album apparaître le 19 avril de cette année. Alors on parlait de New York tout à l'heure. Alors Peter est new-yorkais, donc une ville qui compte dans l'histoire du rock. Là je pense qu'on peut parler d'euphémisme. Quel ADN new-yorkaise on peut déceler, s'il y en a une, dans ce nouvel album?
Il faudrait lui poser la question à lui.
Bah oui, il n'est pas là.
Il n'est pas là. Je ne sais pas trop. Je pense que Peter se sent très européen. Et ça fait quand même maintenant longtemps qu'il vit à Paris. Je pense qu'il vit maintenant même. Ça fait même plus longtemps qu'il vit à Paris qu'il n'a vécu à New York. Je pense que. Je pense qu'il est très. Très européen dans sa manière de penser, de voir les choses. Je pense que l'album qui a le plus été imprégné par New York, c'est le second qu'on a sorti et qu'on est allé enregistrer là-bas, dans le Lower East Side, et avec Matt Vertare.
Oui.
Donc cet album-là, lui, était vraiment, vraiment un album new-yorkais, j'ai envie de dire, qui était... vraiment empreint de toute cette folie urbaine et de tous ces un peu fantômes des années 70 qui nous ont nourris en fait. Je pense que cet album là il est surtout Cut Shadows, il est surtout je pense qu'il n'est, il est ni comment dire, ni français, ni américain en fait. Je pense que il est les deux quoi, puisque c'est vrai qu'on est un groupe français, mais en fait on est surtout un groupe multiculturel quoi, puisque on a tous les deux quand même pas mal bourlingué mais notre base elle est quand même à Paris. Donc je pense que Peter a tout ce bagage effectivement culturel et toutes ces influences new-yorkaises que moi je n'ai pas, n'ayant pas vécu là-bas. C'est très difficile de répondre à cette question parce que je ne sais pas tellement si ça. Comment il ressent les choses par rapport à ça, sa nationalité, cette double nationalité finalement, si c'est encore aujourd'hui quelque chose qui le définit.
Qui l'habite, ouais. Et si ça a été déterminant pour l'album.
C'en a forcément une, dans le sens que je chante en anglais, on communique en anglais tous les deux, on n'a jamais parlé français tous les deux, on a toujours parlé en anglais, donc c'est encore le cas aujourd'hui. Quand on écrit les textes, ils sont en anglais, donc effectivement, il y a peut-être une facilité à écrire, parce que lui, on est tous les deux bilingues, mais c'est... Donc forcément dans les textes ça s'en ressent, mais de New York particulièrement, pour cet album-là je sais pas trop en fait.
Et alors on a combien de temps a duré l'enregistrement de Cut Shadows, et puis vous avez enregistré cet album où, et combien de temps a duré l'enregistrement?
On l'a enregistré dans notre studio à Paris. On a un studio à Bastille qu'on partage avec d'autres groupes depuis un petit moment maintenant. C'est un peu difficile de dater à partir de quand on a commencé à enregistrer, puisque c'est des sessions un peu longues, en fait, enfin, quotidiennes. On a le studio deux fois, notre studio, on y est deux fois par semaine, mais on peut aussi prendre d'autres créneaux quand il n'y a personne. Et on a beaucoup enregistré, on a commencé à composer pendant le Covid, quand on n'avait pas le droit de sortir, mais qu'on sortait quand même, en fait, on se faisait des faux papiers, puis on allait au studio, on avait la clé, on allait au studio quand même la nuit, quoi. Donc là, on composait. L'enregistrement, je dirais qu'il a été entrecoupé de périodes de tournée, en fait. Donc c'est pour ça qu'il est un peu difficile à dater précisément. On a enregistré des bribes par-ci par-là, et puis quand on était en tournée, et puis il y a eu des périodes où, là, comme là, depuis... un an, enfin depuis Rock en scène, on n'a pas rejoué. Donc là, ça a été beaucoup plus intensif depuis l'été dernier. C'était, je dirais que ça fait, on a bien fait 6 mois d'enregistrement, voilà, mais clairsemé. Je sais pas si je suis
Oui,
très claire.
c'est, pour moi,
C'est-à-dire que
c'est
tu
clair
vas
en tout cas.
pas, voilà, on n'a pas fait 15 jours de studio à fond comme sur les enregistrements précédents, quoi.
C'est
Là,
peut-être aussi ce
on.
qu'amène des couleurs aussi différentes d'un titre à l'autre sur la longueur de l'album.
Oui, exactement. Et puis des accidents aussi. Comme on avait le temps de trouver les bons sons, de faire plusieurs prises, d'enregistrer une démo et puis de changer le texte finalement complètement ou quelques phrases avant de vraiment d'enregistrer la version définitive. On s'est laissé la possibilité de créer des accidents
Ouais,
aussi,
d'essayer des choses.
d'essayer des choses finalement, tel son, tel chorus, tel fuzz, ça va pas, on va plutôt mettre un phaser, enfin voilà, c'était beaucoup plus, le temps était plus étiré en fait.
Et alors, combien de titres vous avez enregistrés pour en garder 8 pour Cut Shadows?
On en a enregistré 8. Mais on en avait composé une quinzaine en fait. Mais on a déterminé ce qu'on allait enregistrer avant de s'y mettre en fait.
Et je propose qu'on poursuive avec un nouvel extrait de votre album. Le titre s'appelle Ice and the Machine, Parlor Snakes.
Take care and maintain your machinery.
Ice and the Machine du groupe Parlor Snakes, extrait de leur nouvel album Cut Shadows. Tu as aussi été bookeuse et productrice. Tu connais tous les rouages de l'industrie musicale qui se portent, j'oserais dire, de plus en plus mal, surtout pour la scène indépendante. Ça représente quelle particularité d'avoir été des deux côtés du miroir?
Je pense que c'est plutôt une bonne chose, puisqu'aujourd'hui... c'est très compliqué de n'être que musicien ou musicienne, d'avoir son groupe et puis de s'occuper de rien d'autre, en fait. C'est quasi impossible, en fait. Un groupe doit être à la fois musicien, créatif artistiquement, mais aussi, quand on débute, on fait son booking soi-même, on fait ses flyers soi-même, on fait tout soi-même, en fait. Donc là, c'est la même chose, sauf pour la partie booking, mais on est producteur maintenant, oui. Producteur de cet album. Donc là, il a fallu tout faire correctement pour être dans les clous. Et puis, ça reste quand même, il faut quand même de toute façon être le plus couteau suisse possible. On peut pas que se concentrer malheureusement sur l'artistique. Il faut créer des contenus visuels, il faut créer des communiqués, il faut être au courant de qui est qui. C'est mieux si on connaît un peu les rouages du business et si on connaît des gens. Après, on a quand même une équipe derrière nous. On a une agence de booking, Persona Grata, qui s'occupe de nous. On a un attaché de presse, Thibaut Guilhem, qui s'occupe de nous. On est producteur. On a aussi un label qui nous a beaucoup aidés. On a un distributeur. Donc, on a quand même les partenaires qu'il faut pour avancer. Mais dans le fonctionnement interne, il faut être soi-même le plus possible... autonome, en fait, et indépendant pour aller de l'avant, quoi. Et moi, c'est vrai que mon excursion dans le milieu du booking m'a quand même pas mal aidée, parce que ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens, de connaître un peu du monde. Mais c'est utile, et puis en même temps ça peut ne pas l'être, dans le sens que la musique, c'est très subjectif. Donc même si un programmateur me connaît personnellement et peut peut-être bien m'apprécier, s'il n'aime pas ma musique, il n'aime pas ma musique et il ne prendra pas. Et d'ailleurs, on ne lui en voudra absolument pas pour ça, parce que c'est comme ça, en fait. Les goûts et les couleurs, ça se décide pas, en fait. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi, quoi. Et que il y a certains groupes qui font l'unanimité, mais c'est pas forcément un gage de qualité, et puis c'est pas forcément ce qu'on cherche non plus, quoi.
Non. Et alors, on va terminer cette émission avec une question un peu plus personnelle. Quel sentiment au pluriel vous inspire le monde dans lequel on vit aujourd'hui?
Je le trouve très angoissant, attends, hop, pardon. Je le trouve très, très, très anxiogène, très angoissant. Je rêve d'un monde sans réseaux sociaux. Je peux continuer de rêver.
Et paradoxalement, les réseaux sociaux, pour se faire connaître quand on est dans une démarche artistique, c'est presque indispensable.
Oui, mais c'est terrible. C'est terrible, parce qu'on perd un temps fou, finalement, sur les réseaux sociaux. Moi, la première.
Mais moi aussi, alors que je critique la surutilisation
J'ai horreur de ça. Et en même temps, on ne peut pas... On ne peut pas passer à côté. Il faut être présent à ce niveau-là. Et en même temps, nous, on a envie de garder une part de mystère. En tout cas, moi, je n'ai pas envie de poster sans arrêt des photos de moi en train de faire rien, en fait. Donc, c'est vrai que peut-être que ce n'est pas ça qui ramène du monde, mais je préfère ne rien poster. On n'a pas envie forcément de dévoiler... en ce qui nous concerne, de dévoiler comment tout s'est fait, comment tout se construit, il faut garder cette part de mystère qui est intéressante et qui fait la magie aussi d'une chanson, d'un album, de tel ou tel artiste, en fait. Quand on commence à tout savoir d'elle ou de lui, ça perd de sa magie complètement, quoi.
Et on va se quitter, ma chère Eugénie. Je te remercie hein, d'avoir accepté l'invitation de l'émission Tour de Piste. On va clôturer cette émission avec le titre 100 Miles from the Shore, un titre qui évoque l'attente et le rêve. Est-ce qu'il reste des raisons de rêver aujourd'hui ?
Oui, bien sûr. Bien sûr, il y en a plein, heureusement. Heureusement. Il y aura toujours des nanas et des gars qui rêveront de faire de la musique et qui en feront, heureusement. Donc, y a certaines choses qui, je pense, sont un peu immuables. Après, c'est une autre histoire pour arriver au bout de son rêve, en fait. Mais c'est le chemin qui compte, de toute façon. C'est pas forcément l'aboutissement, en fait. Mais oui, il y a plein de raisons de rêver. Il y a beaucoup de raisons d'angoisser aussi, mais il faut être positif et optimiste le plus possible et faire ce qu'on a envie de faire.
Et alors, parlons avec votre groupe, donc, sera en concert le 16 mai à l'Aéronef à Lille et le 13 juin à la Maison au Petit Bain à Paris. Nous, on se retrouve, non pas le 1er mai, évidemment, parce que c'est la fête du travail, mais le 15 mai à 20h sur les ondes de la radio hébroïcienne Principe Actif. Et bien, je te remercie pour ce moment, Génie. Je vous souhaite une bonne continuation avec ce nouvel album, Cat Shadows, donc, qui sortira le 19 avril. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Au revoir.